Peut-être des questions. Ouais. Si vous avez des questions, je crois que ça va lancer la discussion comme ça. Est-ce qu'il y a des thèmes? Je ne sais pas, n'importe quel sujet. Enfin, n'importe quel.
Peut-être des thèmes variés, plusieurs questions sur.
Oui. Alors, déjà, dites, et puis après, François. Alors, vous étiez dans la même ligne.
D'accord. Non, allez-y, s'il vous plaît.
Alors, la question c'est comment se préparer à la communion. Ça, c'est une bonne question, mais je crois qu'il faudrait reprendre dès le départ. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on doit communier? Est-ce qu'on communie une fois par an, une fois tous les... Mais vous êtes sûr que vous n'allez pas vous mettre... J'ai l'impression d'être comme les mouches, d'avoir, vous savez, une vision latérale comme ça.
Ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est le défaut.
C'est un peu compliqué. C'est intéressant parce qu'on a parlé avec certains d'entre vous à l'instant de cela. Vous savez qu'il y a une habitude plus qu'une tradition qui dit qu'on peut, on doit, on communie quatre fois dans l'année, pendant les carêmes. Poste. En fait, ça, c'est un minimum. La tradition de l'Église nous invite à une communion évidemment fréquente. Mais elle nécessite, ces communions, une préparation, c'est évident. Donc la première chose que je vous dirais, c'est de vous confesser fréquemment. Je ne vais pas parler de communion fréquente, je vais parler de confession fréquente. C'est un des moyens de se préparer. Qu'est-ce que c'est que la confession? Spovedanie, maturisire, spovedanie. La confession, ce n'est pas le fait de dire une liste de péchés qu'on a lu quelque part, et puis vous savez, on fait le test, on met une croix devant ce qu'on a fait là, hop, et après on donne ça au prêtre qui est une espèce d'appareil, et qui va vous dire le résultat. Toi, je ne te laisse pas communier, toi tu communies, toi tu fasses... Non, ça ne marche pas, ça n'a rien à voir. La confession, c'est la conscience que nous nous sommes éloignés de Dieu, et c'est la conscience des faits que de ce que nous avons fait pour nous éloigner de Dieu. Alors voyez, François, ta question fait que je remonte de plus en plus haut. Maintenant, c'est pas comment on se prépare à la confession, à la communion, mais comment on se prépare à la confession. Bientôt, je vais vous dire comment on se prépare au baptême. On va remonter. Je vous donne un exemple. Une maison qui a été abandonnée pendant 10 ans, 20 ans. Elle est pleine de poussière. Il y a eu un tas de païangènes qui se sont installés, d'araignées. Bon, vous rentrez dans la maison et vous grattez une allumette. Le temps que brille l'allumette, c'est-à-dire 3-4 secondes, vous allez voir un peu le désordre. Si vous allumez un cierge, la clarté va être plus importante et surtout le temps, vous allez voir exactement, enfin plus précisément en quoi consiste le désordre. Si vous allumez l'électricité, ben évidemment les détails apparaissent. Si vous ouvrez un jour de soleil les volets et qu'il y a un rayon de soleil qui passe, vous avez tous fait l'expérience des particules de poussière qu'on voit dans le rayon de soleil. La confession, c'est ça. Plus vous vous confessez et plus vous aurez la conscience, plus nous avons la conscience de ce qui nous éloigne de Dieu. Vous vous souvenez que dans la prière de saint Éphrem le Syrien, on dit pendant le grand carême, « Dum sum vot greshel ilemel, donne-moi de voir mes fautes ». Donne-moi de voir mes fautes, mais ce n'est pas une question d'être morbide et d'être accablé par ce qu'on a vu. Ce n'est pas ça. Donne-moi de voir mes fautes pour que j'aie la conscience de l'éloignement de toi. Et en même temps, je vais faire dans la confession, je vais déposer ça comme un poids, je vais le déposer ici, devant lui. Et en même temps, j'aurai la conscience de cet amour qui efface toutes les blessures. Je répète ce que j'ai dit à l'un d'entre vous, c'est une phrase connue, hein, c'est les pères qui disent cela. Notre péché devant l'amour de Dieu, c'est comme une goutte d'eau sur une plaque de métal brûlant, chauffée à blanc. Elle est absorbée par cette chaleur. Où les psaumes disent « Le Seigneur est éloigné de nos péchés autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. » Il faut déjà avoir la conscience de cela, dire « Seigneur, j'ai perdu du temps jusqu'à présent. Voilà comment j'ai fait ça. Voilà comment j'ai perdu ce temps. » On le dépose ici. Et cette confession qu'on va faire fréquemment, si vous voulez, elle va nous permettre de creuser au fond de notre âme, de dire, mais c'est la psychanalyse cette affaire-là, ça n'a... J'attends parce que je ne fais pas le poids, ma voix porte moins. Je ne peux pas... La confession, petit à petit, va nous permettre de creuser dans notre mémoire, dans les souterrains de notre cœur, et de ramener à la surface ce qu'on a voulu cacher, parfois depuis fort longtemps. Et on le dépose. Et on le dépose non pas devant, c'est pas le prêtre qui va donner l'absolution, on le dépose devant le Christ. Le prêtre ou l'évêque, il est le témoin. Et une confession, ça peut durer des années. Ça sera toujours la même confession, mais on va creuser petit à petit, on va se nettoyer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas jugé. La confession, ce n'est pas un tribunal, c'est un hôpital. Je m'adresse aux médecins, là. On n'est pas jugé. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Ce n'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que nous soyons conscients, nous soyons conscients de la façon dont nous sommes éloignés de Dieu. Et cette conscience-là, elle arrive petit à petit. Je vais vous parler aussi maintenant d'une parabole que vous connaissez bien et qui consiste et qui va vous expliquer aussi comment on se prépare à la communion. Vous vous souvenez de cette invitation de ce roi qui invite ses amis au banquet et les amis refusent parce qu'ils ont des bons prétextes, l'un s'est marié, l'autre a acheté un terrain, etc. Le roi, évidemment, c'est Dieu. La salle, le royaume, le palais où ils invitent, c'est le lieu où c'est le royaume auquel nous sommes tous appelés. Et puis, comme il est attristé du fait que ses amis ne viennent pas, il envoie ses messagers, les anges, les apôtres, les disciples, les prêtres, les évêques, qui vont ramasser tout le monde. C'est-à-dire nous tous, tous ceux qui sont dans les chemins, qui sont dans les croisements, les carrefours, ceux qui sont moches, qui sont mal habillés, qui sentent mauvais, qui au fond ne sont pas dignes d'entrer dans le palais. C'est quoi ces gens-là ? Ben, c'est nous, c'est le péché, c'est nous qui sommes déformés par le péché. Mais il nous appelle à rentrer dans le palais. Il y a quelque chose d'incroyable. Excusez-moi, je rentre dans une actualité brûlante, mais on dit que la reine d'Angleterre a fêté son je ne sais quel anniversaire. Je suppose que les invités au palais royal de Buckingham, c'était des gens qui étaient triés sur le volet, comme on dit, et qui étaient compatibles avec le roi ou la reine qui l'invitait. Là, c'est complètement l'inverse. Le roi invite ceux qui sont incompatibles par leur origine, par leur état. C'est incroyable. Ça, c'est l'invitation à la communion. Vous connaissez la suite de l'évangile. la salle est, il y a encore de la place. Allez, faisons venir d'autres, dit le roi. Oh, il dit ça à ses ouvriers. Il dit ça à nous, faites-en venir d'autres. La salle se remplit. Et le roi se promène. Et tout à coup, il en voit un. Et il lui dit, mais toi, mon ami, pourquoi tu n'as pas ton vêtement, le vêtement d'apparat, le vêtement des noces, le beau vêtement? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Allez, dehors. Alors, il y a une... Là, c'est bizarre. Non seulement il force les gens à venir, mais une fois qu'ils sont là, il en met un dehors. Pourquoi? Eh bien, c'est que celui-là, il n'avait pas la conscience du lieu d'où il venait. Il pensait que c'était normal. Le repas, le royaume, c'est la communion. C'est, l'entrée dans le royaume. Le roi fait de nous ses égaux quand il nous invite à table, quand il nous invite à communier. La reine d'Angleterre invite les gens qui sont de son même monde. Le Dieu fait de chacun d'entre nous des égaux quand il nous demande de venir communier. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, c'est incroyable. Nous, espèce de ver de terre, pécheurs, nous devenons, du moment que nous communions au corps et au sang du Christ, nous devenons semblables à lui. Et celui qui est fichu dehors, c'est celui qui pense, ben voilà, je viens, c'est comme ça, c'est normal. Il n'avait pas la conscience de la folie, du truc incroyable, que lui qui était quelques instants auparavant misérable, puant, infréquentable, il devient l'égal de Dieu. Il pensait que c'était malin. Autrement dit, il n'avait pas la conscience de l'état qui était le sien auparavant. Donc, n'ayant pas la conscience de sa maladie, parlons du péché maintenant, il ne pouvait pas avoir la reconnaissance. Quelqu'un qui n'a pas la conscience de la maladie ne peut pas être reconnaissant envers le médecin qui va le guérir. Et notre médecin, il est ici. Donc voilà comment nous arrivons à la communion avec « Je crois et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est ce qu'on dit avant. « Credo aneshimaturises que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Dieu et homme, venu dans ce monde. » C'est-à-dire l'incarnation, Dieu Tout-Puissant qui devient petit bébé, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ce n'est pas une parole comme ça, une hyperbole ou ecclésiastique. Si Saint Paul nous dit, ça vient de Saint Paul. Nous avons la conscience que de l'endroit où nous venons, d'où nous venons, je suis le premier des pécheurs. Il n'y a aucun péché dans le monde dont je ne sois capable. Peut-être qu'on n'a pas tué... Je fais une parenthèse. On n'a pas tué, mais on a sans doute un jour ou l'autre méprisé quelqu'un. Et le mépris, c'est le meurtre des lâches. Quand on méprise quelqu'un, on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir. Il est transparent. C'est qu'on n'a pas le courage de lui balancer une balle dans la tête pour ne plus le voir. C'est le meurtre des lâches et on a tous méprisé quelqu'un. Le mépris, c'est déjà une pensée de meurtre. Il n'y a rien d'humain qui me soit étranger, a-t-on pu dire. Il n'y a aucun péché dont on ne soit capable. Je suis moi ici. Seigneur, je suis capable de tout, mais toi tu m'appelles. Tu ne m'appelles pas parce que je suis sans péché. Quand le prêtre vous donne la communion, il ne dit pas le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu communie au corps et au sang pour la rémission, parce qu'elle est sans péché pour la vie éternelle, il est sans péché. Pentu iertare peccate loci viata de vece. Nu pentu que sentem fere de peccate. Nu. Pentu iertare peccate loci. Donc la confession est liée aussi à la communion, et c'est la communion qui parachève la guérison. Mais nous n'allons pas communier parce que nous sommes sans péché. Il y a des gens qui vont, s'ils pouvaient, ils se confesseraient 3 minutes avant la communion, de façon à ce qu'ils aient matériellement pas le problème. Et ce n'est pas une question de temps. Notre condition même est une condition de pécheur. Et Dieu, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Dieu n'appelle pas des gens parfaits, il appelle des gens pécheurs. ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La conversion, c'est le fait d'être conscient que j'étais celui-là qui était dehors, incapable d'être l'égal du roi, et le roi me fait son égal maintenant. Ça, c'est la préparation à la communion, la conscience. Donc, ce que je peux vous conseiller, la seule chose, c'est de vous confesser le plus fréquemment possible. Quand je suis allé au monastère, moi, avant d'aller au monastère, je me confessais assez régulièrement, disons une fois par mois. Au monastère, à Siestria, on m'a dit c'est une fois par semaine. Qu'est-ce que je vais raconter ? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que petit à petit, justement, il y a cette conscience. Et alors, on analyse, on se rappelle aussi des choses. Le père Sophronie, le disciple de Saint-Siloine, nous parle des mouvements de notre cœur qui chassent le Saint-Esprit. Des mouvements de notre cœur. Écoutez, je crois qu'on a tous l'expérience d'avoir contre quelqu'un autre chose que des mouvements de cœur. On a parfois une telle haine, mais évidemment que la haine va empêcher le Saint-Esprit d'entrer dans notre cœur et qu'il faut il faut nettoyer. Mais un simple mouvement de l'âme contre quelqu'un doit être déposé. Donc ça veut dire qu'avec le temps, nous devons être très attentifs à notre vie spirituelle, très attentifs à nos pensées, la garde des pensées. Ça aussi, c'est le cœur de la spiritualité orthodoxe. La garde des pensées, vous allez dire, mais c'est impossible. Vous avez réfléchi un petit peu à la manière dont les péchés arrivent en nous? Eh bien, on croit que ça vient comme ça. Pas du tout. Ça commence dans la tête. C'est une suggestion. Soit cette suggestion, nous l'acceptons, soit nous la refusons. Pour la refuser, c'est la prière. Seigneur, je ne veux pas de ça. Toutes sortes de pensées, peu importe, mais qui ne sont pas de Dieu. Et qui sont spirituellement une tentative de, par l'autre, le malin, d'entrer dans notre cœur. Notre cœur, c'est comme une citadelle, et si elle n'est pas gardée, il essaye d'envoyer dedans des projectiles. Ces projectiles, ce sont les pensées. Si nous acceptons ces pensées, elles se développent. Et là, le péché, d'abord, vous savez ce que dit le Seigneur, il parle de l'adultère. Celui qui désire la femme de son frère, mais sans avoir commis l'adultère, mais il a déjà commis l'adultère. Devant Dieu, il est coupable d'adultère. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Il peut y avoir d'autres. Vous voyez, la pensée même du désir qui n'est pas juste devant Dieu, eh bien, si on accepte cette pensée-là, petit à petit, on va essayer de voir le plaisir que ça peut nous donner. Ça se fait en un quart de seconde. Et immédiatement après, si on a la possibilité, on va accomplir le péché. Je parle de la pensée d'adultère, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. N'importe quel désir de possession pour les êtres ou pour les biens, pour les choses, peu importe. Donc il faut être très attentif à nos pensées, très attentif à nos pensées. Ça, c'est une sorte d'hygiène spirituelle dont nous parlent les pères. Il y a toute une tradition de l'Église qu'on n'utilise pas, mais elle est à notre disposition. Nous avons, vous savez, lisez Saint Jean Climaque avec discernement, parce qu'il y a des choses. Mais Saint Jean Climaque nous donne des renseignements sur notre âme. On n'a pas attendu Freud pour savoir cela. C'est absolument extraordinaire de voir où se niche l'orgueil en nous. Parce que l'orgueil est la pire des choses et nous sommes tous abîmés par l'orgueil. Mais il faut déjà voir où est-ce qu'il se cache. Vous savez, quelquefois on fait des choses parce qu'on mélange, on fait une bonne action, mais au fond, cette bonne action, elle est déjà polluée par le fait que nous sommes conscients de l'avoir faite, cette bonne action. Et nous avons déjà imaginé tout le bénéfice qu'on peut en tirer à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Ça va vraiment nous poser, cette bonne action. Ça, c'est l'orgueil. Et la bonne action n'a aucune valeur parce qu'elle est polluée par l'orgueil. Elle est recouverte de ce film, cette pellicule d'orgueil. Saint Jean Climaque nous permet de discerner ça en nous et de Et comment lutter? Comment lutter contre ça? Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une préparation aussi à la confession. Il faut se connaître par l'aide, par la vie spirituelle nous permettra de mieux nous connaître. Quand on dit « donne-moi de voir mes fautes », c'est une connaissance qu'on demande à Dieu. C'est incroyable. C'est une connaissance négative, mais qui devient quelque chose de positif. Parce que plus nous avons la conscience de notre éloignement, plus nous sommes bouleversés par le cadeau incroyable qui nous est fait, que c'est, au fond, cet éloignement et ce péché n'est rien, tellement nous sommes aimés. Une autre phrase peut-être pour éclairer cela. La phrase très connue que saint Silouane a entendue. « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens ton esprit en enfer, l'enfer de ton péché, de ton éloignement de Dieu. Mais ne désespère pas parce que tu es follement aimé de Dieu. Nous sommes... Il y a un écrivain... Je crois qu'il était belge, le père Lev Gillet, qui a écrit sous le nom un moine de l'Église d'Orient. Il a parlé de l'amour. Ah non, il est ici. Mais attendez, non, je dis une bêtise. Non, c'est pas le père Lev Gillet. L'amour fou de Dieu, c'est lui. L'amour fou de Dieu. L'amour fou de Dieu. Nous sommes aimés follement. On tient d'un côté notre conscience avec le péché qui nous a éloignés de Dieu, et de l'autre, en même temps, cette conscience de l'amour fou de Dieu. Si j'ai la conscience du péché, sans la conscience de l'amour de Dieu, je tombe dans le désespoir, et au bout du désespoir, c'est le suicide. Si j'ai la conscience de l'amour de Dieu, sans la conscience du péché qui est le mien, je n'ai pas véritablement la conscience de l'amour de Dieu, parce que je ne sais pas d'où je viens et où se situe ma guérison, si je n'ai pas la conscience de la maladie. Il faut les deux en même temps. Vous savez que notre foi, elle est pas paradoxale, elle est antinomique. Deux choses qui sont dans la logique humaine sont absolument incompatibles, on les tient ensemble. La conscience du péché et de notre enfer est le non-désespoir parce qu'il y a l'amour de Dieu. Dieu est vrai Dieu et vrai homme. C'est incompatible, ou on est Dieu ou on est homme, mais il est vrai Dieu et vrai homme. Marie, elle est vierge et mère. Dans le monde, on est ou vierge ou on a enfanté. Vous voyez, c'est la logique bien différente de l'Église et de la... Pas d'Église, de Dieu, en fait, n'est pas du tout celle de cette logique humaine. Donc, nous devons avoir cette conscience de l'endroit d'où nous venons et en même temps de la joie d'être guéri. Ça, c'est extrêmement important. Et on ne peut avoir la conscience de la guérison que si on a la conscience de la maladie. Il faut avoir les deux. Voilà. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais je ne sais pas si j'ai répondu.
Avant la communion.
Alors voilà, maintenant des choses peut-être plus... Donc vous devez avoir un rythme de confession. Un rythme régulier qui peut être augmenté au besoin si vous avez une chose qui s'est passée. Une confession, ça ne dure pas 3 heures. Vous la préparez avant et si vous allez régulièrement, vous verrez que ça se passe assez rapidement. Et puis, vous avez quelque chose à dire au prêtre, mais vous lui dites peut-être avant la liturgie. Il y a aussi le jeûne eucharistique. Alors, moi, je ne peux pas vous conseiller, pour des gens qui vont communier fréquemment, de jeûner 3 jours avant. Quand j'étais au monastère, pour certains, on leur demandait de jeûner 3 jours avant. Mais les prêtres qui célébraient la liturgie le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche, parfois c'était le même, ben, s'il lui fallait jeûner 3 jours avant, ben, il passait sa vie dans le jeûne. Non. Nous devons jeûner comme selon ce que nous dit l'Église, mais nous devons aussi nous préparer par un jeûne eucharistique. Si par exemple nous communions le dimanche matin, eh bien nous allons jeûner le samedi soir. C'est-à-dire que le samedi nous allons prendre un repas qui sera un repas karmique. Et évidemment, on va essayer. Et le jeûne, c'est pas uniquement le repas. Le jeûne, c'est une manière de vivre. Si je passe, j'exagère, hein, et si je passe ma nuit dans la discothèque, dans le divertissement au sens pascalien, hein, à être ailleurs, sauf là où je devrais être, ben, je ne vois pas comment je peux être prêt le lendemain à recevoir le Christ. Bon. Donc le jeûne, ça, c'est un jeûne qui dépasse largement le jeûne eucharistique. Mais il doit aussi y avoir. Donc on ne va pas, pardonnez-moi l'expression française un peu vulgaire, on ne va pas baffrer la veille de la communion. On ne va pas se remplir, parce que c'est Dieu qui va nous remplir, c'est pas la nourriture. Donc on va éviter de manger, ben on va manger karmique, pas de viande, pas de laitage, autant que possible. Voilà, autant que possible. Mais je ne vous conseille pas 3 jours de jeûne. Ou alors, si c'est pour le cas pour des personnes qui ont eu, par exemple, une sorte de médicament, on leur a demandé de ne pas communier pendant un certain temps. Donc là, avant de communier, ils se prépareront un peu plus, effectivement. Effectivement. Mais pour des personnes qui se confessent très régulièrement, le jeûne eucharistique, la veille, en plus des jeûnes que demande l'Église, hein, du mercredi et du vendredi, plus les périodes de carême, c'est largement suffisant.
Ça veut dire, par exemple, si je ne sais pas, on est invité un samedi soir chez les amis, on a un repas
bon.
De fête,
alors,
et que la lendemain, on s'abstient.
Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle l'économie. Ce que je vous ai dit, c'est la manière d'être, de pratiquer en général. Mais vous êtes invité par des gens qui ne sont pas orthodoxes. Vous ne pouvez pas leur refuser, parce que ça veut dire vous couper d'une certaine relation. Vous allez accepter ce qu'ils vous donnent. Et vous allez, sans rien dire, vous n'allez pas faire une leçon d'orthodoxie en disant « je ne peux pas ». Non, vous offrez amour pour eux et pour les remercier de vous recevoir, vous allez accepter ce qu'ils vous donnent sans rien dire. Si vos amis sont orthodoxes, vous leur direz, bon, ben, demain on va communier, alors on fait quelque chose, je me réjouis d'être avec vous, mais on va faire quelque chose de sobre. L'intérêt est de partager la nourriture, un repas c'est une eucharistie, mais on n'est pas obligé de faire tout ça dans une espèce de luxuriance gastronomique. Donc il faut pratiquer le discernement. Mais j'ai vu, moi, j'ai des personnes qui étaient très tristes, qui avaient accepté, par exemple, des repas chez des amis non orthodoxes la veille de Noël ou la veille de Pâques. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? D'abord, la veille de Noël ou la veille de Pâques, on se prépare, il y a des offices. Donc, il faut aussi avoir le courage de dire non. Ça, aujourd'hui, c'est une journée importante pour moi. Je ne peux pas, je vous remercie de votre invitation, mais je ne peux pas l'honorer. Nous serions juifs ou nous serions musulmans, personne ne trouverait à redire si nous avions une certaine règle, une manière de vivre liée à la foi qui est la nôtre. Alors en tant que chrétien, on peut l'assumer. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte d'étendard, parce que là c'est insupportable. Tout ça doit être fait dans la discrétion. Je voulais vous dire autre chose concernant la préparation. Quand j'étais au monastère, et tout particulièrement au monastère Saint-Silouane en France, l'igoumen nous avait bien dit, si vous vous êtes disputé avant entre frères et sœurs, ou entre frères, vous ne venez pas communier. Tu peux faire le jeûne que tu veux, tu peux faire 50 000 métanies, si tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, ce que tu viens faire ici, tu communies pour ta condamnation. Va demander pardon à ton frère ou à ta sœur. Et si tu ne peux pas le faire, parce que la personne est loin, ou que tu ne veux pas pardonner, ben tu vas voir le prêtre et tu dis, je ne veux pas pardonner, je voudrais, mais je ne peux pas. Tu vas déposer ça, mais hors de question d'aller communier alors que dans le cœur, on garde consciemment une rancune. Parce que là, c'est plus qu'un mouvement de l'âme, hein. C'est véritablement une rancune. Le père Sophronie nous parle d'un mouvement de l'âme. Vous imaginez là, avec la rancune, dans quel degré on se trouve. Donc ça, c'est une interdiction de communier absolue. D'où la nécessité d'aller voir le prêtre. Et de dire, voilà, devant le Seigneur, d'être sans les masques. Hein. La communion aussi, la confession, c'est ça. On enlève les masques, bas les masques. On se montre à Dieu tel qu'on est, dans notre nudité et notre laideur. Voilà, Seigneur, où j'en suis. Je voudrais aimer, mais je ne peux pas aimer, j'ai même pas envie d'aimer. Je n'ai pas envie de pardonner. Un tel m'agace trop, je ne peux pas. Viens à mon aide, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qu'on va déposer devant le prêtre qui est témoin, mais devant le Seigneur. Donc vous voyez, la préparation à la communion implique quand même une lucidité, et nous demandons à Dieu cette lucidité, encore une fois, donne-moi de voir, hein, c'est la lucidité, quant à notre vie spirituelle. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas venir comme ça.
Arsène Rabacho de Pékinpo. Et bien sûr, il pose cette question sur les ennemis, sur la haine. Et alors, je dis, c'est en moi qui cherche la dispute. Je suis une victime, je ne sais pas comment faire. Alors, il m'a dit, pardonne-les là dans ton cœur. Et ça,
bien sûr. Bien sûr. Il faut, si on peut pas, si on a été victime de quelqu'un, d'une part, il faut savoir que devant Dieu, il n'y a pas de différence entre celui qui m'a blessé et moi. Et que même si je ne me rends pas compte, moi-même un jour, j'ai été celui qui a blessé. Donc on n'est jamais toujours dans la position de la victime. Il ne faut pas croire ça, ça serait trop simple. Mais effectivement, si c'est le cas et que c'est avéré, on dit « je pardonne Seigneur dans mon cœur » et puis à partir, je ne peux pas lui dire, mais au moins dans mon cœur c'est ça. Bien entendu, si la distance ou si c'est l'impossibilité de le dire, il peut y avoir des impossibilités qui ne tiennent pas à nous, mais à une circonstance extérieure, l'important est de pardonner dans notre cœur. La personne peut être décédée aussi, celle qui nous a blessés, et on n'a pas pu se réconcilier. Dans notre cœur, on dit « Seigneur, je lui pardonne ». Et il faut savoir que si nous ne pardonnons pas, nous accumulons sur la personne des charbons ardents. Et sur la personne aussi à qui on ne pardonne pas. D'où la nécessité de pardonner. Mais aussi le Seigneur nous dit, pardonnez et vous serez vous-même pardonné à la mesure que vous pardonnez. Imaginez-vous que le Seigneur nous traite, nous, comme nous traitons nos frères et nos sœurs. Ça va mal se passer, je pense. Je crois qu'on a sans doute une conception de la justice qui est beaucoup plus dure et beaucoup plus abrupte et beaucoup plus impitoyable que Dieu. On est beaucoup plus impitoyable à l'égard de nos frères et de nos sœurs pour telle ou telle de leurs actions que Dieu nous l'est avec nous. Et j'espère que nous ne serons pas jugés avec la mesure... avec laquelle nous avons nous-mêmes jugé. Enfin, là, je parle pour moi. Sinon, c'est mal parti. Voilà. Et autre... Alors la conscience, oui. Vous avez raison. Alors la conscience, elle vient par l'enseignement spirituel, par l'engendrement spirituel. Alors évidemment, on a du mal à, les pères spirituels sont de plus en plus rares. Vous avez parlé du père Arsène, mais maintenant le Seigneur l'a rappelé à lui. Nous avons ici la chance d'avoir près de nous le père Placide, mais père Placide, il est âgé maintenant. J'ai parlé à l'un de vous, et justement, je voulais vous dire, là, les pères spirituels nous parlent aussi dans des livres. Il y a actuellement plein de livres qui sont parus sur des spirituels. Alors, je pense au père Cléopas, je pense au père Paisio Larru, mais je pense au père Porfirios, au père Arsenie. Et tout récemment, et ça, je fais, alors, à chaque fois maintenant que je vais aller dans une paroisse, je vais faire de la pub pour ce livre. Je l'ai donné à l'un d'entre vous. Le dernier volume du Buisson Ardent, les cahiers Saint-Silouane, je crois que c'est le sel de la terre aussi, la même collection, sur le Staretz, l'archimandrite Staretz Siméon, qui était le disciple du père Sophronie. C'est un livre extraordinaire que vous devriez tous avoir à la maison, parce que là, vous avez un père spirituel à côté de vous, qui va vous dire de l'éducation des enfants, comment faire, comment se comporter entre nous, comment avoir la conscience aussi de mon état spirituel. C'est absolument remarquable. Il s'adresse aussi à des moines et des moniales, mais ne croyez pas que les moines et les moniales ont un autre évangile que nous, que vous. Donc ce qu'il dit aux moines et aux moniales, il le dit à chacun d'entre nous. C'est vraiment, et là on arrive au cœur de l'orthodoxie. Et je puis dire que le cœur de l'orthodoxie, ici, c'est véritablement le cœur de l'enseignement du Christ. On est au centre même. Et ça nous est donné dans une langue qui nous est accessible par quelqu'un qui avait aussi notre manière de penser. Donc c'est absolument remarquable, remarquable. Donc les pères nous enseigne aussi par les livres. Lire les livres des pères de l'Église, bien entendu, mais nous avons la chance que nous soyons en Roumanie ou en France, mais encore plus en Roumanie, nous avons la chance d'avoir toute une littérature spirituelle qui est extrêmement riche. Alors, vous avez raison. Mais ça, je vais vous dire une chose, on peut avoir le père spirituel ou la mère spirituelle devant nous, et la parole, elle germera dans 10 ans. On a tous, dans 10 ans, dans 2 mois, mais parfois on ne comprend rien. On est déçu, vous avez eu cette expérience peut-être, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Ça n'a aucun intérêt. On a l'audace de dire c'est nul ce qu'il m'a dit, je ne comprends pas. Au lieu de dire je ne comprends pas, je ne suis pas à la hauteur, on dit c'est nul. Et puis après on dit mais, et ça, voilà. Donc la conscience, si vous voulez tout ça, Dieu sait quand est-ce que ça porte du fruit. Attention aussi à notre désir très occidental d'avoir de l'efficacité. Je vais voir le Père, il faut que ça porte ses fruits tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tous ces livres, tout cet enseignement, ça s'accumule en nous. Et à un moment, mais regardez l'Évangile. On a tous cette expérience d'avoir lu et relu un passage jusqu'au jour où on dirait que quelque chose, nos yeux s'ouvrent. Et on comprend pourquoi. Voilà. C'est aussi l'aide de Dieu et c'est l'influence du Saint-Esprit. C'est fini de parler derrière.
C'est comme l'écho.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour... Qu'est-ce qu'on doit faire pour servir notre volonté? Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ont une faible volonté, qui savent ce qui est bien, mais leur volonté n'est pas assez puissante pour accomplir les bonnes choses.
Alors,
il y a des gens qui ont une forte volonté, mais c'est le Dieu qui l'empêche de, disons, de parler sur la bonne volonté. Et de notre côté, comment on sait quelle est la volonté de Dieu dans notre vie?
Donc, il y a deux questions. La première, c'est, Saint Paul a résumé, il a dit, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Cela veut dire que, et Dieu sait si Saint Paul devait avoir, et ça devait être un homme de caractère, et un homme non seulement de grande intelligence, mais d'une puissance de caractère et de fermeté, mais il arrivait qu'il était impuissant. Et on a cette expérience-là. Notre caractère, selon chacun, il a une certaine force, mais de toute façon, ça nous dépasse largement. Les commandements de Dieu nous dépassent. Aimer, on ne sait pas. Pardonner, on ne sait pas. Ça nous dépasse. Il faut que ce soit Dieu qui travaille en nous. Donc, comment faire? Eh bien, Seigneur, je suis incapable de faire ça. Je voudrais le faire. Tu confies ce que tu as à dire, à ce que tu as à faire, ou à choisir. Je ne sais pas que faire, ou je ne sais pas comment le faire. Travaille en moi, œuvre en moi. Il faut que ce soit le Christ ou la Mère de Dieu qui œuvre en nous. Seigneur, je ne sais pas élever mes enfants. Je suis dépassé par mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Et prie la Mère de Dieu, dis-lui, voilà, je suis dépassé. Comment est-ce que je peux faire? Toi qui es la Mère des Mères, tu vas m'aider. Donc, tout ça, tout, notre vie quotidienne est placée sous le regard de Dieu. De façon à ce que, et c'est toujours saint Paul qui dit, c'est plus moi qui travaille, c'est le Christ qui travaille, qui œuvre en moi. Le Christ qui vit en moi. Autre chose, comment il y a la volonté? Alors, vous avez dit la volonté. Vous savez, dans la vie ascétique, on parle aussi de volonté propre. Volonté personnelle. Personnelle, ce n'est pas très bien comme nous. Volonté individuelle, ma volonté. Ça, il faut le guérir. Souvent, nous voudrions transformer le Notre Père de façon à dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en plus, rapidement. Ça, il faut le guérir. Ça ne marche pas du tout. Que ta volonté soit faite. Et ta volonté, Seigneur, elle passe par la volonté de mon frère ou de ma sœur. Donc, ça passe par l'obéissance. Ça passe par le renoncement à notre volonté propre. Là, on est aussi au cœur du renoncement dont on a entendu parler dans l'Évangile aujourd'hui. C'est renoncer à soi-même. Dans l'Église, celui-là, il veut chanter comme ça. Et moi, je ne veux pas chanter comme ça. Ou il lit comme ça et moi, je ne veux pas qu'on lise comme ça. Ou il prie comme ça et moi, je ne veux pas qu'on prie comme ça. Eh bien, je vais, au lieu d'imposer ma manière et de faire la gueule parce que ça ne correspond pas à la façon dont je veux qu'on prie, qu'on chante, je ne sais pas quoi, eh bien, je ne vais rien dire. Je vais dire, Seigneur, que sa volonté, que ta volonté soit faite dans mon frère ou dans ma sœur. Et apprends-moi à ouvrir mon cœur, renoncer. Ici, dans la paroisse, quelqu'un te dit, est-ce que tu peux aller m'aider à faire telle chose? Est-ce que tu peux aller chercher mes enfants? Est-ce que tu peux venir m'aider à porter je ne sais quoi? Oui, j'arrive, je viens, je le fais. Je renonce à quelque chose pour le faire. Je renonce à moi-même. Un exemple que j'ai donné hier, mais c'est terrible parce que c'est un exemple qui correspond, qui touche les serviteurs de l'hôtel. Et ça nous arrive à tous. Dans une petite ville de province, c'était pas Grenoble, qui n'est pas une petite ville, une dame qui est orthodoxe rencontre le prêtre de la paroisse. Elle n'allait pas bien, c'est une personne qui est malade, atteinte d'une maladie grave, et elle voulait lui parler. Et le prêtre, très poli, très gentil, très accueillant, lui fait comprendre que ben, il n'a pas le temps. La dame aurait bien voulu partager un café, s'asseoir à une terrasse de café, ils étaient dans la rue, parler un petit peu, avoir un réconfort, j'ai pas le temps, j'ai une urgence. C'est-à-dire que lui, au fond, ce prêtre qui était habitué, qui célèbre la liturgie, mais à la liturgie, ça veut rien dire, parce que la liturgie, si elle se continue pas dans son frère ou sa sœur qui est présente, et s'il ne renonce pas à son petit, son emploi du temps, pour être immédiatement présent à celui qui est devant lui, ben, il n'a rien compris. Et il n'est pas dans l'esprit du Christ. Parce qu'il est dans sa propre volonté, dans son espèce d'efficacité, mais son efficacité, elle est nulle, elle n'a aucune valeur, parce qu'il a laissé en souffrance sa sœur, et qu'en plus, c'est en totale contradiction avec le service liturgique, ici, célébré à l'autel. Parce que ça veut dire que nous faisons des choses qui deviennent une espèce de routine, s'il n'y a pas d'implication dans notre vie. Je dis c'est terrible, parce que ça veut dire que nous, les serviteurs de l'autel, plus que tous les autres, nous devons être attentifs à celui qui est devant nous, ou à celle qui est devant nous, et surtout, totalement disponibles. totalement disponible, comme le Christ sur la croix. Mais chacun d'entre nous est appelé à ça. Donc la volonté propre, on la crucifie. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est ça qu'appelle Saint Paul appelle en partie ça quand il dit « tuer le vieil homme ». Le vieil homme, c'est celui qui dit « non, je m'occupe de moi d'abord ». Je pense à moi. Vous savez, on entend ça sous « maintenant, je vais penser à moi ». Ça, c'est génial. Ça, c'est très psychologique. « Maintenant, je vais penser à moi ». Oui, alors ça, c'est cata. Ça n'a rien à voir avec l'esprit du Christ. Est-ce que le Christ a dit « maintenant, bien heureux ceux qui vont penser à eux maintenant ». Ça serait. Ça, c'est très, très esprit, je dirais, c'est très consensuel. Non, tu penses jamais à toi. Tu penses, tu es. Comment tu peux penser à toi? Ça veut dire que, par définition, tu mets une barrière. L'autre, le frère n'est plus le frère, c'est l'autre. C'est pire que tout, vous voyez? C'est, non. La volonté propre, on y renonce parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui ne veut pas dire tu aimeras ton prochain autant que toi-même, ça ne veut rien dire. Tu aimeras ton prochain parce qu'il est toi-même. Il est toi-même, c'est ta propre vie. Et ton prochain, c'est celui qui est vivant, c'est ton ami, c'est ton ennemi, mais c'est aussi celui défunt. C'est celui qui vit à des milliers de kilomètres que tu ne connais pas, c'est celui qui a vécu il y a des siècles et que tu ne connais pas. D'où la nécessité de prier pour le monde, de prier pour la paroisse. Vous devriez, vous êtes nombreux maintenant, mais ça serait bien que vous ayez un pomelnik, un diptyque, avec les noms des uns et des autres, des enfants, des parents, et que vous priez régulièrement. Vous forgez la communauté comme ça. Priez les uns pour les autres, mais priez pour les défunts aussi. Relisez l'acatiste des défunts, ce magnifique acatiste des défunts qui a été écrit par un évêque russe dans le goulag. C'est une splendeur qui récapitule tous les défunts. Et vous mettez les vôtres après, mais vous récapitulez tous les défunts du monde entier que vous ne connaissez pas. Le prêtre, quand il fait la proscomédie, il dit une prière qui récapitule l'ensemble des défunts. Mais ça, nous aussi, on pourrait le faire. Tout ça, ça nous oblige à renoncer à notre volonté propre, à ce petit pré-carré, ce petit champ clos, avec lequel on se balade, vous savez, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui englobe les parents, les enfants, les proches, ceux qui pensent comme moi, ceux qui votent comme moi, ceux qui ont la même couleur de peau, ceux qui viennent du même pays, ceux qui fréquentent le même quartier, etc., etc. Bon, mon petit monde, c'est pas possible. Ma volonté, je l'arrête et ça sera pour être complètement ouvert, être vulnérable, au sens premier, être capable d'être blessé. Le Christ, sur la croix, il s'étend, et il ne va pas faire ça, aïe, 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 non, je ne veux pas. Le Christ s'étend, il est vulnérable. Il accepte d'être blessé. Acceptons d'être blessé. L'amour sacrificiel qui accepte d'être transpercé, sans se venger, sans dire « regardez comme je me laisse crucifier, comme vraiment je suis extraordinaire », donc la fausse humilité que l'on porte tellement se mérite que c'est une espèce de stiague que tout le monde voit, hein, d'étendard, la grande magnifique humilité, non, c'est pas ça. J'accepte humblement, bon. Donc la volonté, elle a beaucoup de facettes. Il faut savoir la discerner, il faut aussi autre chose. Discerner la volonté, qu'est-ce qui est en moi? C'est volonté de Dieu, c'est volonté humaine, c'est-à-dire neutre, ou volonté diabolique? Il y a les trois. Comment le discerner? Par la prière, et pour ouvrir et poser la question au prêtre, au père spirituel. J'arrive pas à discerner, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est de Dieu? Par la lecture des pères spirituels. Enfin voilà, donc il y a plein de... Vous voyez, c'est pas tout ça. C'est on ne travaille pas dans un domaine. Hein, je dirais que c'est le père Raphaël Noïka qui a parlé de cultura duhul, la culture de l'esprit. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une nouvelle culture. Ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est un mode de vie. Être chrétien, être orthodoxe, c'est pas des valeurs. On se fiche des valeurs. Ça n'a aucun intérêt des valeurs, c'est extérieur à nous. Le Christ n'est pas une valeur. C'est un mode de vie. Nous sommes en train de... C'est une tout à fait autre. C'est une révolution, on sera toujours les mêmes, mais on sera complètement différents. Rien à voir avec les valeurs. C'est agaçant ce mot valeur, qui est très à la mode aussi.
Mais souvent, on est obligé de choisir, je dirais, très vite quand même. Par exemple, est-ce qu'on va aider on peut aussi se laisser à l'inverse, emmener à toujours. J'extrapole dire oui, et là il faut avoir le discernement.
Absolument. Le discernement, c'est un don de Dieu aussi. Et le discernement vient dans la prière. Et n'oublions pas que nous devrions être des êtres de prière. On se plaint quelquefois de ne pas avoir de discernement, d'être faible devant Dieu. On voudrait plus si on ne donne rien. Mais il est vrai que est-ce que notre vie est une vie de prière ? Là-dedans aussi, si nous étions alimentés toujours, si nous étions greffés, comme un... Vous savez, la métaphore du jardin, là, dans comme le greffon, celui qui est greffé au tronc, la sève passe. Si nous ne sommes pas greffés, par la prière, la sève ne passera pas. La sève, c'est l'action, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous donner, parce que le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Et comment est-ce qu'il travaille si nous-mêmes, nous ne sommes pas réceptifs? Si notre cœur est plein de pensées qui sont autres que celles de Dieu, et si nous ne sommes pas dans la prière. Or, la prière, ce n'est pas prier le matin et le soir, et quoi, sta, basta. Non, la prière, c'est évidemment utiliser les prières que donne l'Église, mais c'est le fait d'être en relation toujours avec Dieu. Être amoureux de Dieu. Je reprends, je répète, excusez-moi, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, et certains l'ont déjà entendu, mais lorsqu'on est amoureux, on a la pensée de l'être aimé au cœur, dans les yeux, on en parle, dans la mémoire. Mais c'est ça la prière. Si j'ai le nom du Christ partout en moi, comme dit ça, ce magnifique bouclier de Saint-Patrick, Christ au-dessus de moi, Christ derrière moi, Christ devant moi. C'est tout ça, ça veut dire que Christ est partout présent. Et que c'est toutes mes pensées qui vont vers lui et vers Dieu. Donc là, si je me nourris aux Saintes Écritures, le discernement viendra. Alors je ne serais peut-être pas capable toujours d'exercer le discernement, mais au moins... Ça se cultive.
Concernant la prière, est-ce que peut être considéré la prière que les moments qu'on arrête les soirs, les matins ou à midi, si on en fait, prière avec les mots de l'Église? Où la prière peut être considérée aussi quand on est dans la voiture et on parle au Dieu directement.
Exactement. La prière, elle a différentes modalités, manières de se faire, mais c'est un mode de vie. Être en prière, c'est justement dans la prière de Jésus dans la voiture, ce peut être lire les prières de l'Église, ce peut être lire les psaumes, ce peut être silencieux. Ça peut être parce que c'est important d'être... il y a toute forme de prière, bien entendu. La prière, elle est... Pourquoi est-ce qu'on bénit le repas? Est-ce qu'on bénit le repas pour qu'il soit meilleur ou qu'on digère mieux? Pardonne-moi le truc, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça. On bénit le repas pour le placer sous le regard de Dieu. Le repas devient une prière. Pendant ces temps que nous avons passés ensemble... C'est vrai qu'on a pu, on était distrait, on a parlé avec les uns et les autres, mais le repas lui-même est une prière. Seigneur, bénisse, je ne vais pas manger en douce, comme ça, sans que ça se voit. Et puis, le temps qui est passé là n'est pas un temps qui est passé en dehors de toi. Quand on va au travail, on peut bénir les gens, ou les médecins, vous allez bénir tous ceux que toutes les personnes que vous allez rencontrer, autant les collègues que les patients. On rentre dans un transport en commun, et bien on bénit les personnes qui sont là. Et quand vous rentrez dans un TGV, vous imaginez le nombre de personnes que vous bénissez, c'est génial. Et vous priez pour eux, tout ça, toutes les bénédictions font que la vie devient une prière.
Moi, je me rappelle, il y a quelques années à Cork, parlant des prières, vous avez dit qu'il ne faut pas que la prière, c'est qu'on demande, toujours, donnez-nous ça, c'est aussi un remerciement. Parlant de bénir les repas, c'est remercier.
Absolument. Mais alors, effectivement, il y a une demande, il y a le remerciement ensuite. Il me semble qu'on ne l'a pas fait d'ailleurs.
mais c'est vrai. Dans l'idée de remercier
pour, oui, tout à fait.
Pour les choses, tout pas toujours fait. Demander, donnez-nous
absolument.
La santé, mais, donnez-nous
alors,
je ne sais pas quoi.
Le Christ a obéi aussi à des personnes. Il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'un dit, que je vois, que je sois guéri. Mais évidemment, si le Christ accepte de guérir quand on lui demande, c'est qu'on peut demander. On peut demander des choses physiques, évidemment, des guérisons, et bien sûr. Mais avant tout, il faut demander la guérison du péché, la guérison de notre péché. Et la première demande, c'est la demande que nous faisons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Au fond, que tout ce qui m'arrive soit béni, Seigneur, j'accepte tout. Donne-moi simplement de ne pas agir contre ta volonté. Ça, c'est la première demande. Pas facile. Parce que c'est sûr qu'on aimerait tous être riches, bien portants, donc en bonne santé, etc. Mais on peut avoir des maladies, on peut avoir des problèmes d'argent, les êtres que nous aimons peuvent avoir des problèmes de santé, nous pouvons les perdre. Et nous sommes nous-mêmes soumis à la mort. Et on voudrait éviter tout ça. Mais lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, c'est que je suis prêt à accepter, Seigneur, tout ce qui peut m'arriver. J'étais très impressionné, c'est une image qui me vient là, quand j'étais à Yash, il y avait les tableaux votifs, vous savez, dans les églises, les fondateurs des églises étaient représentés. Et alors, deux églises de Yassi avaient été restaurées par le roi Charles Ier et son épouse, la reine Élisabeth. Et les communistes, évidemment, soit au trois hiérarques, ils avaient tout badigeonné en mettant des... Je vois ce qu'ils avaient mis dessus. Et dans une autre église, ils avaient mis un tissu. Donc, en 90, on enlève le tissu et on voit le roi Carole, la reine Élisabeth, le prince héritier, donc le neveu de prince... comment s'appelle-t-il, Ferdinand-Marie, et une petite fille. Carole et Élisabeth avaient une petite fille qui est morte, assez, je crois, très jeune. Et la reine Élisabeth porte les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Elle a ce texte, vous voyez, donc, et la petite fille est représentée. Donc, elle accepte, on sent que cette... Et je suis convaincu que ce n'était pas pour une représentation. Cette mère avait accepté le don de son enfant, que le Seigneur reprenne son enfant, qui était la chair de sa chair, toute sa vie et son bonheur. Donc ça, quand on dit que ta volonté soit faite, on prend un risque terrible. Mais, et pour ça, quelquefois on réfléchit, oui, mais enfin, est-ce que je serais capable ? Mais on dit aussi, ne me laisse pas emporter par l'épreuve. Le mot, l'image, c'est un fleuve en crue, en furie, vous savez, qui emporterait une petite coque de noix. Non, fait que l'épreuve, que je ne tombe pas dans le désespoir à cause de l'épreuve. Et que je sois toujours capable de faire ta volonté. Vous voyez, comme le Notre Père est cohérent aussi hein, dans la prière.
L'autre traduction, c'est ne me laisse pas emporter dans l'épreuve.
Oui, non, ça c'est l'image, pas, bien sûr, oui, ne nous laisse pas, je ne vous conseille pas de dire ne nous laisse pas emporter par le fleuve en cru, ça va, on va croire que c'est, on va dire, c'est,
ils sont... Au niveau
d'image,
parce que quand on dit ne me laisse pas emporter par l'épreuve,
c'est
comme
supporter
l'épreuve.
Oui, c'est pas succomber, c'est écrasé par l'épreuve.
Oui.
Que nous ne soyons pas accablés au point de ne plus résister. Non, C'est pas Dieu qui envoie l'épreuve, c'est pas le tentateur. Mais nous lui demandons que lui travaille en nous et qu'il soit en nous pour que nous supportions au sens de l'épreuve que nous, dans laquelle nous entrons. Bien sûr. Alors ça, c'est aussi, vous avez raison, mais c'est un vaste domaine, on ne peut pas non plus généraliser. Parfois, il y a des épreuves qui nous sont données pour lesquelles nous n'avons aucune, je dirais, dans lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Mais quelquefois, nous payons les conséquences, en quelque sorte, de nos choix précédents, quels qu'ils soient, d'un choix de vie. Et l'épreuve vient parce que le choix a été fait en toute conscience et en connaissance de cause. C'était un mauvais choix qui a des conséquences. Donc, tout ça dépend aussi de... Il n'y a pas de comment dire, un cas, un simple cas. Il y a une multitude. Mais bien sûr, oui. Bon, le sens aussi... Le sens de l'épreuve, hein, comme les pères disent, c'est, vous savez, le morceau de fer qu'on met au feu, et en fait, toutes les impuretés sont brûlées par cette mise au feu qui est violente, et ne reste que le métal pur. Voilà.
On a peur des peurs, mais bon, il y a une expression peut-être, si on... mais moi je suis convaincu que Dieu ne nous donne pas des preuves aussi dur qu'on ne peut pas les porter.
Alors,
il mesure toujours à nous mettre sur les deux.
C'est vrai.
Au maximum.
Avant d'avoir cette conscience, il faut quelquefois dire c'est insupportable, je n'en peux plus.
Mais je n'en peux plus. Lui, il sait.
Et il arrive. Sait oui, il sait, mais nous, on a tendance à dire ça commence à faire. Il y en a marre. Dans ces cas-là, il faut penser à Pierre sur les flots. Le Christ est en dehors de la barque, il marche vers sur les flots, c'est lui une tempête. Et il appelle Pierre, Pierre sort et marche sur l'eau dans la tempête. La tempête, c'est la vie hein, de tous les jours, la vie, les épreuves. Et à un moment donné, Pierre dit, mais c'est pas possible que je sois en train de marcher. Et là, il coule, c'est-à-dire qu'il a une espèce de manière de penser rationnelle et il s'enfonce. Et le Christ le prend. Quand nous sommes dans l'épreuve, il faut s'accrocher au Christ. Exactement comme a fait Pierre. Ça, c'est là. Et à partir de là, on peut supporter absolument tout. Mais si on ne s'accroche pas, on est comme Pierre, on s'enfonce. Et si on se laisse enfoncer complètement, il n'y a plus de solitude. Dans l'épreuve aussi, il y a la prière de l'Église. Vous connaissez, vous êtes une famille. Quand vous connaissez un de vos proches qui est dans l'épreuve, eh bien, priez pour lui. Faites, groupez-vous pour prier pour telle ou telle personne qui est dans la souffrance. Maladie, problème de travail, problème de santé. Vous devez exercer, confions-nous les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Ça, c'est la prière. C'est la prière qui va vous aider les uns les autres. On en a parlé, me semble-t-il, déjà, mais je ne sais plus. Vous vous souvenez de ce malade qui est porté par ses amis? Il est sur son lit et les amis le portent pour l'amener auprès du Seigneur. Parce qu'il y a trop de monde, il y a des obstacles. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette... les amis, c'est vous. Celui qui est malade, c'est celui que vous connaissez dans la paroisse, peu importe où, il est allongé. Mais les amis, vous allez le porter par la prière. C'est là, le lit, c'est le pommel lit aussi, le diptyque sur lequel vous allez mettre votre ami et vous allez le porter au pied du Seigneur, comme ça, pour dépasser les obstacles. Parce que lui, parfois, ne peut pas tout seul. Un homme, il se serait débrouillé tout seul, il aurait joué des coudes. Mais le paralysé, il ne peut pas. Donc ça, c'est aussi une façon de créer l'unité entre vous. Priez les uns pour les autres. C'est facile de savoir dans la paroisse qui est dans la souffrance. Pour ça encore, parfois on ne le connaît pas, il y a des gens discrets ou qui ne veulent pas parler, ou qui ont une retenue, enfin. Mais ayez le diptyque, un diptyque, un pomelnik, avec tous les gens. Vous êtes un peu nombreux, mais c'est pas grave. Au contraire.
Et pour ce diptyque, vous nous conseillez de mettre nommément à chaque personne.
Oui.
Pas la famille, un tel, mais chaque personne.
Ben, c'est bien parce que c'est le nom, quand vous, la personne communie, elle communie, c'est pas le membre de la famille un tel. Bien sûr, c'est le prénom. Oui, mais il ne faut pas oublier que Dieu, que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est l'homme là qui demande, c'est l'homme qui a c'est celui qui a eu soif, c'est celui qui a eu sommeil, c'est celui qui a pleuré devant Lazare. Et c'est lui, parce que tout en étant homme, il est toujours au sein de la divine Trinité, deuxième personne. Mais là, il a eu c'est l'humanité qui a eu cette non seulement là, je dirais l'angoisse devant la mort qui va lui être donnée. Mais à Gethsémani, on dit que au jardin des oliviers, le Christ porte sur lui toutes nos souffrances, à tel point qu'il en a une sueur de sang. Ça veut dire que tout ce que vous souffrez, tout ce que nous souffrons, toute cette souffrance du monde qui est absolument incompréhensible, la souffrance des enfants, la souffrance, on va pas l'expliquer. Le monde, c'est le monde de la chute. Mais l'innocent, avec un grand I, le seul innocent a porté tout cela à Gethsémani. À Gethsémani, c'est la rencontre de la souffrance humaine avec la toute-puissance divine, mais qui accepte et qui porte tout ça. La souffrance est incompréhensible sans Gethsémani, sans la souffrance du Christ et sans ce qu'il a supporté volontairement, qui est notre propre souffrance, en plus. Tout à fait. Oui. Il l'assume à tel point qu'il s'étend volontairement sur la croix et il les bénit au moment de l'extrême, de la douleur la plus terrible, il les bénit. Pardonne-leur. Il prie pour eux. Il prie, hein. Pardonne-leur. C'est une prière que le Seigneur adresse pour eux, pour ses persécuteurs. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut prier pour eux ou pas.
Oui, mais si on peut la faire quand même.
Il y aura, ce que je vais vous dire, c'est moi qui vais vous le dire. C'est pas, il y a différents avis. Tout dépend aussi de la façon dont la personne s'est suicidée. Pardon, pas la façon, mais l'état d'esprit dans lequel ça s'est fait. Mais très souvent, si une personne se suicide, c'est qu'elle est dans un état de souffrance tel qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'elle n'a pas eu tous les moyens aussi. Il peut y avoir une maladie psychologique, psychique, qui l'a poussée à faire cela. Et la personne n'est pas responsable. D'autre part, entre le moment de la décision et le moment où l'âme se sépare du corps, peut-être que la personne a eu le temps de dire « Pardonne Seigneur » ou « Je ne veux pas ça ». C'est possible. Donc en aucun cas, moi je ne peux me substituer, je laisse à Dieu le soin de juger, je ne jugerai pas et je prierai pour cette personne. À la fois dans l'église, faire un office des défunts et à la proscomédie, on peut le mettre. Mais moi je le prendrai en disant « Seigneur, toi seul sais ». Que je n'impose rien, mais je le laisse à la volonté du Seigneur. Mais en aucun cas, je ne dis « c'est moi qui vais mettre une barrière ». En revanche, si c'est un suicide philosophique, qui est plus une... Je prends un exemple, peut-être que ça ne dira rien à la plupart d'entre vous. Il y a un écrivain qui a eu autrefois une certaine notoriété en France, Henri de Monterland. Les gens de ma génération connaissent, qui s'est suicidé. Mais c'était un suicide, clairement, il ne souhaitait pas, c'était un suicide philosophique. Il mourait comme aurait pu mourir un ancien romain. Il considérait que c'était le moment de donner, de donner une fin à sa vie. Il n'assumait pas la maladie, il n'assumait pas la vieillesse. Évidemment, là, cet homme est totalement en dehors de la vie en Christ. Que Dieu lui vienne en aide, mais là, je ne peux pas prier pour lui parce que, visiblement, il refuse la miséricorde de Dieu. C'était hors de question. Mais que Dieu lui... Je peux dire, Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Mais vous voyez, c'est différent. Alors que pour quelqu'un dont on ne sait pas la façon dont c'est passé, grand Dieu, eh bien que le Seigneur juge lui-même et qu'il l'accueille dans son paradis.
En rentrant sur la mort d'assister, c'est que la société discute maintenant d'assister les gens en fin de vie passer leur souffrance plus vite.
Ça va être... Mais là, on va avoir des grands débats en juillet, je pense. Il faut être très, très clair là-dessus. Ça va être terrible, ce qui va être proposé. Il faudra que l'Église orthodoxe se manifeste aussi et qu'elle exprime ce qu'est le message du Christ et qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment clair. Je ne me fais aucun doute, l'Église catholique se manifestera. Mais je pense... Et nous avons les éléments pour le faire. Donc, il faudra vraiment... On attend un petit peu, mais dès que les questions vont être à l'ordre du jour, il va falloir qu'on s'exprime là-dessus. Sur tout ce qui est les questions de la protection de la vie, au début de la conception, et puis à la fin de la vie aussi. Bien sûr. Mais, si vous voulez vous endormir, vous avez le droit.
On peut voir notre âme comme une maison, comme une petite église. On est reçu dans la maison des autres, soit on est dans la salle de sang, soit on est, disons, sur un couloir, dans une certaine pièce. Et des fois, on sent qu'on est poussé à la porte. Que faire dans ce cas-là?
Mais alors, j'ai pas bien compris. C'est une métaphore, la pousser à la porte, c'est-à-dire.
Comment on sent qu'on fait plus partie de la vie de l'autre.
Mais l'important est que l'autre fasse partie de ta propre vie. C'est son problème à lui, tu pries pour lui. Mais toi, tu le rejettes pas.
Mais il faut attendre comme le Christ à la porte pour...
Oui, mais toi, rien n'empêche que l'on prie pour lui dès qu'on se rend compte qu'il a mis une barrière. Je peux prier pour lui, je mets son nom dans l'elliptique, je prie pour lui... Non, mais que Dieu lui... Mais en tout cas, moi, la fermeture ne sera pas réciproque. Il n'y aura pas une fermeture des deux côtés, non. Parce que le Christ, effectivement, il est toujours attentif. Il est en attente, je veux dire, en attente. Voilà, mes amis. Maintenant, on va compter, il y en a combien qui dorment ? 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai qu'on devrait commencer les conférences ou les entretiens comme ça par une... Écoutez, si vous voulez dormir, dormez. J'étais il n'y a pas très longtemps à Chambézy où il y avait une réunion avec tous les évêques, tous les évêques qui avaient des communautés orthodoxes en Suisse. Donc on était là sur le podium qui était près de l'hôtel, il y avait des gens. Et alors ce qui était terrible, c'est que je voyais les têtes les uns après les autres. C'est assez. On devrait dire aux gens, mais dormez, soyez tranquilles, ça ne pose aucun problème. Installez-vous sur l'épaule du voisin et allez-y. Ne ronflez pas peut-être, mais dormez.
Il y a une explication pour ça, c'est pas leur faute.
Hein?
C'est les taux de CO2 qui montent dans la pièce.
Et la digestion.
et la digestion. Oui. c'est pas intéressant. Oui.
Non, mais je sais, mais je plaisante. Et ce qui était terrible aussi, il ne faut pas le dire, c'est que pendant cette conférence à Chambézy, moi-même j'avais envie de dormir. C'était
terrible. Pour les mêmes raisons.
Quelle chance ils ont eux, parce qu'il n'y a que moi qui les vois. Mais moi, si je pique du nez, alors là, devant 300 personnes, c'est quand même difficile. Alors je comptais les pages des interventions, je me dis, bon, on a le temps pour longtemps. C'est vrai qu'il faut prendre de l'air dans ces cas-là, mais bon. Voilà, mes amis, merci pour votre accueil. Vous avez une question?
Oui.
Alors, justement, c'est la garde des pensées, comme j'ai dit tout à l'heure, semble-t-il. Ça, c'est un travail que nous devons exercer tout le temps, nuit et jour. Nuit et jour. Et que c'est là, être très attentif aux suggestions et les refuser lorsqu'elles ne sont pas de Dieu. Mais c'est ce que nous donne, ça c'est un enseignement que nous donnent les pères, hein, depuis, commencer par Saint Jean Climac, etc. Mais qu'ils nous disent bien de ne pas nous effrayer des pensées de blasphème, de meurtre, des choses comme ça. Ce n'est pas nous, c'est une suggestion de l'autre. En revanche, si nous faisons ces pensées, nous les acceptons, là le péché devient nôtre. Bon, écoutez, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Merci de votre accueil. On va chanter à la Mère de Dieu pour conclure. Thank you.
Thank you.